1 sur 4, soit 12 millions, c'est le nombre d'adultes français qui rêvent d'écrire un jour un livre, selon un sondage réalisé en 2022 par le Figaro littéraire et Odoxa. Un mot, après un mot, après un mot, c'est le pouvoir, a dit aussi l'écrivaine Margaret Atwood. Le pouvoir des mots, c'est peut-être ce qu'il nous restait lors du premier confinement. Un Français sur 10 aurait ainsi commencé à écrire un livre durant cette période. Alors, Demos Scriptura, l'écriture au peuple, c'est la question que l'on pose ce soir. Bonjour Turbine, 71e, c'est tout de suite en direct sur Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Ce soir, comme à l'accoutumée, nous retrouvons Marion à la technique. À la rédaction avec nous ce soir, Alain, notre chroniqueur habitué et habituel, Jonathan, tout nouveau venu dans l'équipe, et Tao, qui n'est pas présent mais qui nous a préparé une chronique prête à diffuser. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir. Bonsoir.
Et bien sûr, à mes côtés, je n'oserais t'oublier, David, puisque tu te joins à moi pour l'animation de cette émission.
En effet, merci Floriane et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau et cette émission, alors que l'on s'intéresse ce soir au thème de l'écriture. Nous recevons Nicolas Sorel, qui anime un atelier d'écriture d'Amavada, le fameux atelier Les Hippophages. Depuis plus de 10 ans, nous sommes d'ailleurs nombreux autour de cette table à avoir participé à cet atelier. Nicolas Sorel est aussi auteur de romans, il a écrit pour le théâtre et propose également des formules de partage autour de l'écrit aux librairies, médiathèques, festivals. Ce sont des ateliers et stages pratiques d'amateurs, des cafés de lecture, des débats, des conférences et rencontres autour de sujets ou d'écrivains. Avec nous également en studio, Grégory Bonnet, maître de conférence en informatique à l'Université de Caen, amateur d'écriture. Il a longtemps participé à l'atelier d'écriture de Nicolas Sorel. Il est amené également à écrire pour son autre passion, la fiction à travers les jeux de rôle. Bonsoir et bienvenue à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on l'a vu, les Français aiment écrire, mais qui sont-ils, d'où viennent-ils et comment mettre le pied à l'étrier lorsque l'on est ou que l'on se considère néophyte? Voilà autant de questions que nous allons aborder avec vous ce soir, en nous intéressant notamment à un format que vous connaissez bien tous les deux, les ateliers d'écriture créative. Mais avant ça, je me tourne vers toi David, puisque tu n'es pas seulement co-animateur de cette émission, tu es toi-même un écrivain hors pair, virtuose des calembours et autres jeux de mots, et habitué depuis presque toujours à ces fameux ateliers d'écriture dont on te laisse nous raconter ta toute première fois.
Nous sommes le 1er octobre 2012. Je me rends à ma première séance d'écriture. J'ai rendez-vous à la fermeture éclair à 20h, un lieu qui ne donne pas envie d'être en retard. J'arrive, il y a une dizaine de personnes, des plus vieux que moi, mais aussi des plus jeunes. Je dis bonjour, mais je n'emmène pas large. J'essaie de capter la conversation de mes voisins pour glisser un petit mot d'humour, histoire de me détendre l'atmosphère et pour faire connaissance. Mais ça tombe à plat. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Faut croire que non. Cependant, ça va un peu mieux. Je me suis lancé. Et même si je suis le seul à rire de mes blagues. Là-dessus, le grand maître des mots, Nicolas Sorel, l'animateur tant redouté de l'atelier d'écriture, apparaît. On murmure qu'il a une culture d'encyclopédiste, la verve de Cyrano, la plume de Maupassant et surtout la barbichette de Trotsky. Dans son œil brille une lueur de malice. C'est le moment de s'installer autour de la table et de rédiger. Je m'assieds à côté de Dorothée, une dame très classe qui a dû ressembler à Marilyn Monroe dans sa jeunesse, mais qui est devenue plutôt marquise de Sévigné. Il n'en faut pas plus pour faire monter la température. Le gars en face de moi ressemble à Tchekhov. Allez donc, je suis bien entouré. Oui, Balzac. Je ne suis pas du tout con. Alors, aujourd'hui, les choses sérieuses commencent avec le sujet d'écriture du jour. Ce sera la poésie. Manque de bol. C'est ce que j'aime le moins. Rimer, ça me déprime. Ça ne rime à rien. On ne s'improvise pas poète sur commande. Donc je me lance dans un banal poème en prose. Comme Monsieur Jourdain, je fais de la prose sans le savoir. L'automne, un coup de vent, les feuilles tombent, les sanglots longs et les violons, rien ne vient. Au secours, à moi, Villon, Victor Hugo, Rimbaud, Verlaine et Vermifuge. Vers de 12 pieds, alexandrins et vers de terre qui n'ont pas de pieds. Je ne suis pas du tout convaincu par mon premier écrit. Et maintenant, il faut lire, c'est une torture. Je ne passe pas en premier, heureusement. Peut-être je vais pouvoir m'éclipser en passant sous la table, où fonde tellement ma chaleur corporelle semble à son comble. Chacun lit son texte à voix haute, certains mettent la barre assez haut. Et du coup, excusez-moi parce que je me trompe dans mes papiers. Et il y a du style et de belles envolées. Les regards se tournent vers moi. Et moi, je suis à la limite de tourner de l'œil. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai l'impression d'être debout au centre de la table et tout nu. Le voile de la pudeur s'est envolé pour laisser place à la création. J'ai le trac, je suis au bord de l'apoplexie. Ma voix tremble comme celle de Malraux au Panthéon. Mais rien de grave, ce n'est que l'automne. Je bafouille, je m'étouffe, je frissonne comme une feuille, mais j'y crois. Le ton y est autant que le contenu, me semble. L'audience des autres rime ailleurs est tolérante. Madame de Sévigné se fend même d'un sourire. Ça m'encourage à terminer la saison par une épitaphe. Il est mort, en voici la preuve. Cependant, il a bien vécu. On ne plaindra pas sa veuve. Il a toujours été cocu. À mon grand étonnement, je suis adoubé, sauvé par l'humour. On rit, on s'esclave et l'animateur commente. Bon, je crois que je vais revenir la semaine prochaine.
Merci David pour cette entrée en grande pompe dans le monde de l'écriture et de la fiction, monde que nous explorons ce soir avec nos deux invités, Nicolas Sorel et Grégory Bonnet. Bonsoir à tous les deux et merci d'être venus dans notre studio. Avant de développer le sujet, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment chacun vous en êtes venu à écrire ? Nicolas, si tu veux commencer.
Oui, mais ok. Comment j'en suis venu à écrire moi ? C'est difficile à dire, j'ai l'impression d'avoir toujours écrit. À l'époque même où je ne savais pas écrire ou même pas lire, je griffonnais sur des carnets, sur des feuilles, pour faire des lignes de signes comme ça, je pense, comme faisait ma mère, mon père. Voilà, j'avais des parents vraiment très, très, très branchés, livres, écriture, etc. Prof de lettres pour ma mère, comédien, auteur pour mon père. Donc, je les voyais faire et je pense que ça me fascinait, ces signes-là, ces histoires qu'il y avait à l'intérieur de ces codes-là, même si je ne les comprenais pas. Et du coup, voilà, après, évidemment, parcours classique, hein, on va dire, au lycée, premiers émois, amoureux, premier poème, premier tout ça. Mais non, je crois que j'ai toujours, avant, j'avais écrit des scénarios de BD pour faire comme Tintin, des scénarios de trucs de super-héros pour faire comme les Marvel que je lisais, et voilà.
Et tu t'es jamais arrêté ?
Eh ben non.
Voilà. Et toi, Grégory ?
Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a quand même des points communs, en fait, finalement, parce que moi aussi, hein, ça remonte à, je pense, pas mal de temps. Mais mes parents avaient une grande bibliothèque, donc je dévorais plein de livres quand j'étais gamin. Et puis, j'ai petit à petit abordé en fait un peu la question de l'écriture. Alors, David avait dévoilé des histoires de jeux de rôle, mais je pense que ça a participé en fait à écrire des petits scénarios, des choses comme ça. Et puis après, pendant le lycée, j'étais en classe de théâtre, donc je faisais du théâtre, donc du coup forcément il y avait des liens forts, donc on s'est essayé avec des amis à la radio, à l'écriture de films, et donc de fil en aiguille en fait j'en suis venu voilà, à écrire pour moi, pour le plaisir, même si j'en ai pas forcément fait mon métier par la suite. Quoique, dans mon métier, il y a quand même de l'écriture dans tous les cas qui revient. Et donc voilà, ça s'est un peu construit un peu de la même manière. Et, et avec des rencontres aussi ouais, qui font que des fois ça fixe des choses. Et donc je disais, voilà, avec des amis, on écrivait des scénarios. Bah, du coup, cet aspect un peu collectif, je pense, ça a été aussi décisif à un moment donné.
Alors Nico, je me tourne vers toi, j'ai pas vraiment besoin de me tourner, puisque je suis en face. J'aimerais connaître un peu la genèse de ton atelier d'écriture d'Amavada, du coup.
Oui, alors, donc l'atelier dont tu parles, là, c'est Les Hippophages, qui est un atelier voilà. Donc hebdomadaire, qui a lieu actuellement tous les lundis soir, et avant c'était les jeudis soirs. Ça fait, je crois, la 15e année qu'il existe sans interruption. En fait, au tout départ, c'est vraiment lié à une proposition d'Amavada. En fait, moi, je suis un des membres fondateurs qui est là depuis le départ d'Amavada. Et l'idée, c'est toujours qu'on est un peu touche à tout. C'est un grand rassemblement, une grande équipe de touche à tout. Et donc, quand il s'agit de faire de l'écriture, en l'occurrence, moi, j'en faisais. Donc, plutôt que d'aller chercher d'autres gens, on se dit pourquoi on ne fait pas les choses nous-mêmes. Donc on a commencé à animer des stages réalisation en 2007, de manière vraiment sérieuse et subventionnée. Et donc il fallait proposer différentes disciplines, donc pourquoi pas l'écriture, pourquoi pas des ateliers d'écriture. Donc ça a commencé comme ça sur des stages d'été, pour moi l'animation d'écriture. Et puis en fait comme ça s'est bien passé, que ça me plaisait, que les gens avaient l'air contents, on s'est dit pourquoi pas intégrer ça dans les propositions d'ateliers hebdomadaires, comme il y avait déjà des ateliers théâtre. Et donc, d'où l'idée, voilà, c'était... donc je crois que ça doit être en 2008, quelque chose comme ça, à la rentrée 2008, qu'on a créé l'atelier Les Hippophages de manière régulière.
Non, juste une toute petite précision, même si, à mon avis, beaucoup de Canets connaissent. Amavada, qu'est-ce que c'est ?
Amavada, ah oui, effectivement, c'est... C'est une association implantée à Caen depuis 1995. Et donc, on ne va pas refaire tout l'historique, mais voilà, qui fait se croiser les artistes professionnels et amateurs et les artistes des différentes disciplines, et qui est actuellement installée dans les écuries du quartier Lorge depuis la rentrée là.
Et toi, Greg, comment tu as participé pendant quelques temps aux ateliers des Hippophages. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ce... Bah, tu parlais de l'aspect collectif tout à l'heure, mais mis à part ça, qu'est-ce qui t'a amené à participer à cet atelier ?
Alors, une partie de hasard, à vrai dire. Donc, comme je disais, voilà, j'ai toujours un petit peu écrit, mais aussi de manière un peu en dents de scie, en fait. La pratique, on va dire, amatrice, en fait, elle conduit souvent, je pense à ça. Et donc, en 2011, je suis arrivé à Caen. Enfin, je venais d'être nommé, en fait, à l'université. Et je ne savais que faire. Et je me suis dit, je vais refaire du théâtre, pourquoi pas. Et à tout hasard, en déambulant, je suis tombé, en fait, sur cette association. Je suis rentré dans les locaux. Il y avait d'ailleurs Nicolas, en fait, qui était derrière le comptoir. Avec quelqu'un d'autre, voilà, qui s'occupait des ateliers théâtre. Et donc, j'ai repris du théâtre. Et au bout d'un an, j'ai enfin compris qu'il y avait aussi un atelier d'écriture qui se tenait en même temps. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas écrit, parce que faute de temps, faute de... Mais le fait d'avoir un moment dédié à ça, et ça, je pense que c'est assez important, en fait, de donner une espèce de régularité. Ça permet collectivement, même si après c'est un travail seul, en fait, de faire les choses. Et c'est comme ça, en fait, voilà, que... Okay. Je me suis inscrit pendant,
combien d'années tu es resté, oui. Quelques années.
Hein. Oui, ouais, presque une dizaine,
presque
je dirais. Ouais.
Alors, une question un petit peu pour vous deux. Un atelier d'écriture, comment ça marche ?
Alors, comment ça marche? Je crois qu'il y a autant de processus et de façons de faire que d'animateurs d'ateliers. Sûrement, en tout cas. Après, il y a peut-être plusieurs écoles. Moi, vraiment, l'idée, quand j'anime un atelier d'écriture, c'est de mettre les participants en confiance, en fait. Et de leur proposer un terrain sur lequel ils sont évidemment... dont ils ne sont pas forcément familiers, parce que sinon, ça ne sert à rien de proposer aux gens des choses qu'ils peuvent faire en autonomie chez eux. Il faut qu'ils aient satisfaire leur envie de se déplacer pour faire quelque chose. Et en même temps, évidemment, l'écriture, comme tout geste artistique, c'est quelque chose qui nécessite une pulsion interne, quelque chose d'un peu intime et tout. Donc il faut quand même vraiment le premier travail, c'est de mettre les gens en confiance pour les amener à s'exprimer tout bêtement devant quelques personnes réunies autour d'une table. C'est déjà pas facile. Donc voilà, et après, les processus, c'est faire le con pour ça, dire des... Voilà, et en même temps, être assez rassurant, montrer qu'on connaît son sujet et qu'on n'est pas non plus... qu'on n'est pas complètement là par hasard. Pour que, voilà. C'est un espèce de savant mélange comme ça, de complicité et de cadrage, quoi.
Mmh. Ouais, parce que je pense qu'une des difficultés aussi, c'est que... Les gens qui viennent, ils viennent pour des raisons qui sont, je pense, assez différentes. Et on va retrouver, en fait, ce mélange, des aspirations distinctes, des envies distinctes. Et il faut arriver à pouvoir faire tenir tout ça et le faire fonctionner. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais à titre personnel, moi, j'aime bien cette méthode-là. Je viens pas forcément pour apprendre une technique. Je viens surtout pour trouver le temps et avoir l'occasion de pouvoir partager aussi ce qu'on écrit avec les autres. Alors, même si ça rajoute une contrainte supplémentaire, en fait, contrairement au travail individuel, c'est qu'in fine, un atelier, c'est en temps fini, c'est en temps contraint. Et donc, on démarre, on discute, on se présente les contraintes ou les règles de l'exercice ou les thèmes abordés. Et puis, on a une heure pour écrire. Si on veut se laisser au moins une heure pour que chacun puisse lire ce qu'il a écrit et éventuellement avoir un retour, même si ça, c'est pas forcément obligé. Et donc, du coup, en fait, ça change aussi. C'est intéressant notre manière d'écrire. Écrire en temps contraint, en sachant qu'on va avoir un public, c'est pas la même chose que d'écrire chez soi au coin de la cheminée.
Mais la contrainte temporelle, elle est importante dans le sens où, en fait... Pareil comme toute œuvre, un texte, on peut considérer qu'il n'est jamais fini, on peut toujours l'améliorer, etc., etc. Mais donc, il faut se donner une contrainte pour dire à tel moment, on arrête. Pour cette fois, quitte à reprendre plus tard, à améliorer les choses encore plus tard. Mais du coup, juste la contrainte temporelle, elle est importante pour ça, pour permettre de se dire à un moment, j'achève un état du texte et je peux partager autour de ça avec les autres gens.
Je reviens sur ce que tu disais, qu'il y a autant d'aspirations qu'il y a de personnes et d'écrivains, mais malgré tout, ça, est-ce qu'il y a quand même des prérequis pour participer à un atelier d'écriture comme celui-là ou...
Alors, pour moi, le seul prérequis qu'il y a pour participer à un atelier d'écriture, il n'est pas tellement du fait des participants, parce que j'ai vraiment animé, moi, depuis du coup, toutes ces années, des ateliers d'écriture avec des publics extrêmement variés, depuis les enfants qui ne savent pas encore lire et écrire non plus... Jusque dans les EHPAD avec des gens qui ne peuvent plus tellement écrire et tout. Et en milieu carcéral, en milieu hospitalier, en milieu... J'essaie d'explorer toutes les possibilités. Après, vraiment, ce qui fait que le groupe peut fonctionner, ce qui fait que l'atelier peut marcher, c'est la constitution du groupe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de cohérence dans le public. Ce qui est vraiment difficile, c'est quand on a vraiment des gens trop dissemblables au sein d'un même atelier. On peut accepter plein de gens quand même, avec des différences et avec chacun sa personnalité, etc. Mais justement parce que il y a quand même, on va dire, une attente qui peut se recouper chez les amateurs, on va dire, avec un certain bagage intellectuel. Ou alors, on peut faire un atelier complètement avec des gens qui ne lisent jamais, qui ne font... Voilà, mais forcément, moi, mes propositions ne vont pas être les mêmes. Et les attentes des gens ne vont pas être les mêmes que ceux qui écrivent ou qui lisent beaucoup. Et voilà, l'intérêt, je pense, d'un atelier d'écriture, c'est de réussir ce savant mélange entre justement ramener des gens qui ne se ressemblent pas complètement non plus trop, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à être que avec des gens qui sont ses propres semblables ou son propre reflet. et en même temps de pas non plus complètement éclater les provenances et les niveaux, etc. Pour qu'il y ait quand même une émulation, qu'il y ait quelque chose qui puisse circuler entre les gens, qui puisse s'entendre, tout simplement se comprendre et échanger, quoi.
Et c'est vrai, et du point de vue de ceux qui viennent, justement, mon avis, un des prérequis, c'est aussi abandonner dans une certaine partie ses aspirations, c'est-à-dire être capable d'accepter, en fait, d'écouter les textes des autres, d'écouter les envies des autres. Ça, c'est pas toujours évident. Et c'est un travail qui est nécessaire, voilà, si on veut participer collectivement à cette aventure, même si les écrits qu'on fait restent des écrits individuels, bien entendu. Mais
c'est aussi hyper important, parce qu'en fait, l'apprentissage, ou en tout cas la découverte d'une discipline artistique, passe autant par le fait de regarder et d'entendre et de voir que de participer. On apprend beaucoup plus, moi je trouve, sur la peinture, en allant voir une expo, limite qu'en faisant un tableau. Ou moi j'ai presque appris plus sur le théâtre en donnant des ateliers qu'en en prenant, quoi. Et donc c'est aussi hyper important, c'est cette notion collective d'ouverture, d'écoute, et tout ça, ça permet de ne pas rester en vase clos, quoi.
Okay.
Alors, chaque année, votre projet est différent. Comment est-ce qu'on se renouvelle, et comment on peut renouveler les propositions pour fédérer une pas tomber dans la routine, justement?
Ça, au bout de 15 années, ça fait partie des trucs qui deviennent effectivement pas faciles du tout. Comment on fait? On se gratte la tête et puis on cherche des idées. Et puis on se fait confiance aussi un peu. Après, pour les propositions, il y en a des plus ou moins réussies et des plus ou moins pertinentes. Et voilà, après, c'est essayer de, au bout d'un moment, on connaît son public un peu. Et donc, voilà, mais c'est vrai qu'il faut se renouveler. Et c'est un savant mélange entre réussir à se renouveler et en même temps réussir à rester dans le cadre qui est attendu, quoi.
Et toi, Grégory, est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué ou...
Alors oui, on avait travaillé à une époque sur le roman historique. Ça, c'était assez drôle. Donc en fait, il y avait toute une partie de recherche. C'est-à-dire qu'en plus, au-delà de l'écriture, on avait travaillé sur... Alors, chacun faisait une période particulière ou une histoire particulière à raconter. Et donc, on avait une partie de recherche. Et c'était un travail d'écriture sur le temps long. On avait mis à peu près un trimestre donc, pour écrire soit un chapitre ou plusieurs chapitres, par exemple, de quelque chose qui pourrait être un roman historique. Et moi, j'avais beaucoup aimé ça à titre personnel, parce qu'on... J'avais fait une histoire de pendant l'Antiquité romaine, voilà le voyage d'un espèce de mangeur et buveur qui allait essayer de faire un pèlerinage chrétien avec ses entourés évidemment de nombreux idiots. C'était très très drôle et ça avait bien marché. Hein,
ok, super. Bah, merci à tous les deux. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission, mais avant ça. David, je crois bien que l'heure de nos habituelles CPV, capsules pédagogiques et véridiques, a sonné. Et pour ouvrir le bal, tu t'es intéressé aux astuces et techniques éprouvées par certains auteurs pour se mettre à écrire.
Et en effet, Floriane, bienvenue dans cette première CPV. La littérature n'a pas d'odeur. Enfin, si quand même un peu. Frédéric von Schiller avait une drôle de façon de se forcer à écrire. Pour être certain de ne pas être déconcentré et de trouver la motivation nécessaire pour terminer ses œuvres, le poète allemand écrivait avec des pommes pourries dans ses tiroirs. Car l'odeur le motivait et le poussait à écrire plus vite pour ne pas avoir à la sentir. Et pour pouvoir écrire plus tard et ne pas s'endormir, il mettait ses pieds dans un bac d'eau glacée qui le tenait éveillé et alerte.
Merci David. Dans le même genre quoi, qu'un tantinet plus conventionnel, il existe une autre technique visant à mettre l'épreuve du corps au service de l'esprit. C'est le moment de la nouvelle chronique de Jonathan.
En direct de live de Station B et pour l'émission Bonjour Turbine, la chronique de Jonathan.
Alors je vous prie d'être indulgent avec moi, car c'est ma première chronique. Ah là là, le sujet de l'écriture et de la fiction, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire ? Je vous avoue que je ne maîtrise pas tellement le sujet, mais à chaque problème, sa solution. Laissez-moi aller courir et je reviens, il paraît que ça booste la créativité. Alors, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ah mais oui, voilà, inspiration, ça y est, je l'ai retrouvé. Vous l'aurez bien compris, mon domaine de prédilection, c'est le sport et la course à pied. Et à défaut d'être polygraphe, je suis monomaniaque. Alors laissez-moi vous parler des auteurs et autrices qui ont une accointance pour la course à pied. Dans ce registre, comment ne pas citer Cécile Coulon, autrice et coureuse assidue, qui dans son livre Petit éloge du running nous dit, je cite, « En course, lorsque l'on part sans se poser de questions, il arrive souvent que l'on trouve une réponse sur sa lancée. » C'est dingue ça. Tu pars courir sans problème et tu reviens en ayant trouvé la solution au problème que tu n'avais pas. Elle poursuit en expliquant le lien entre sa foulée et le rythme du texte, que la course à pied lui permet de donner de la consistance à ses personnages ou à trouver de nouvelles idées. Si ce n'est pas beau ça. Ensuite, je peux vous parler de l'un des auteurs japonais les plus lus au monde, Haruki Murakami, qui évoque également être un grand passionné de course à pied, notamment de marathon et d'ultra-fond. En d'autres termes, le gars aime se faire mal. Sa passion pour la course à pied serait née en même temps que son envie d'écrire. En gros, se faire mal donne envie d'écrire. Je ne comprends pas tout, mais après tout, pourquoi pas. Tout comme Cécile Coulon, Murakami a publié un essai autobiographique sur le sujet, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Il nous parle de ses deux activités favorites, l'écriture et la course à pied, et les points communs qui les relient. Selon lui, elle se pratique seule et non de sens, non dans la victoire ou la défaite, mais dans le fait d'être allé au bout, d'une course pour l'une et d'un roman pour l'autre. Et je terminerai ce point par vous citer des sportifs qui sont également des écrivains, comme Guillaume Martin par exemple, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, est un cycliste professionnel normand, toujours en activité, qui a terminé deux fois dans le top 10 du Tour de France. Il a écrit une pièce de théâtre Platon vs Platoche, beau duel en perspective pour les amateurs de philo et de ballon rond. Il a aussi écrit plusieurs ouvrages philosophiques, comme quoi on peut autant en avoir dans les jambes que dans le cerveau, n'est-ce pas? Pour finir, comment ne pas citer une fiction retranscrite sur grand écran, dont le héros est en basket? Un de mes films préférés, à votre avis, de quel film je parle? Florian, David, petite idée? Nicolas, non?
Forrest Gump.
Forrest Gump, bien sûr, un film de Robert Zemeckis où Tom Hanks interprète un personnage simple et pur qui nous raconte son histoire et dont l'optimisme et les capacités sportives permettent de dépasser ses difficultés. En somme, l'écriture comme le sport peuvent être un moteur pour l'un comme pour l'autre, mais aussi un formidable révélateur de personnalité. Comme quoi, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, surtout lorsque l'on accueille un nouveau chroniqueur. Après vous avoir dit tout ça, je me tourne vers vous Nicolas, car j'ai vu que vous étiez un ancien journaliste sportif, et vous me voyez venir, est-ce que le sport est une source d'inspiration pour vous ?
La littérature est un sport de combat, ça c'est sûr, déjà contre soi-même en premier lieu. Oui, oui, après le sport est... Tout est... Pour moi, tout est... Et de source d'inspiration possible. On peut écrire sur tout, et on peut parler de tout, et avec tout le monde. Donc le sport en fait évidemment partie, et c'est vrai que moi, il fait partie de ma vie de manière importante depuis toujours. Donc effectivement, ça m'a aidé, d'autant qu'en fait, on en parlait, on l'évoquait un peu tout à l'heure, moi, ça a été une des façons aussi d'écrire dans des journaux donc écrits. La presse écrite, c'était un des moyens pour moi de satisfaire ce besoin que j'avais de remplir des feuilles et des feuilles et des feuilles. Donc voilà, c'était effectivement, ça a participé de manière assez importante.
Okay. En tout cas, merci Jonathan pour ta chronique. Je rappelle quand même à nos auditeurs et auditrices que tu viens juste de rejoindre l'équipe et que tu es actuellement en stage au Media Lab avec Thomas qui n'est pas là ce soir. Oui, donc en tout cas, bienvenue dans l'équipe pour ces deux mois à venir. Merci. Alors lui n'est pas sportif, mais auteur, compositeur, interprète, rappeur, rien que ça, mais il est aussi écrivain. Il faisait d'ailleurs partie de cette dernière rentrée littéraire avec son nouveau roman Jacaranda, paru en août aux éditions Grincé, et qui revient sur le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est Gaël Faye, Petit Pays.
Gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka, gahugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand?
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, warago weni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya,
j'en suis sûr.
Warapunweni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Retour en direct sur Bonjour Turbine, où l'on s'intéresse ce soir à l'écriture et à la fiction. Il ne m'en fallait pas plus, mon cher Alain, pour introduire le thème de ta chronique de ce soir dédiée à la bande dessinée.
Merci Floriane. Je vais me la péter un peu, je vais la faire à la Augustin Trapenard, parce qu'on n'est pas filmé, mais moi j'ai amené quand même les BD. Au moins vous profiterez, vous aurez l'image. Je vous présente ça avec la complicité d'une amie qui est libraire à Place 26, à Double à Délivrande. Et donc il y a toujours des coups de cœur et des choix qui sont très bons. Donc ou c'est moi ou c'est elle, mais les siens sont très bons. Alors je commence avec le nouvel album de Jérôme Félix, qui est au scénario, et de Alain Janol, qui a dessiné Arsène Lupin et le dernier secret de Nostradamus, aux éditions Grand Angle. Grand Angle, c'est Bambou. Une nouvelle aventure inédite avec l'aval de la famille Leblanc, parce qu'il ne faut montrer pas de blanche pour faire du Arsène Lupin. On va y retrouver Lupin, Sherlock Holmes, quoique, Irène Adler, et approcher la fin du monde. Je n'en dis pas plus, mais c'est du grand Jérôme Félix. Et d'ailleurs, toujours chez Grand Angle, il publie l'intégrale de L'Héritage du Diable,
toujours de Jérôme Félix et Paul Gastine. Là, vous avez en un seul tome réuni les quatre albums. Ça fait plus de 200 pages, ça sera collector, et comme Noël approche, ça pourrait être une bonne idée de cadeau. Alors, je continue. Là, je ne l'ai pas, le livre. Mais il y a 40 ans, le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemain a été retrouvé pieds et mains liés dans la Vologne, une rivière. Il avait 4 ans. De nombreux rebondissements ont fait de ce crime une affaire médiatique jamais élucidée à ce jour. Christophe Gauthier publie le roman graphique Grégory aux éditions Les Arènes BD. C'est une occasion joliment dessinée de découvrir ou redécouvrir cette tragique affaire. Alors, Luz, qui est de dessinateur BD, qui travaillait à Charlie Hebdo, qui avait miraculeusement échappé aux attentats, publie chez Albin Michel un formidable album, Deux filles nues, dans des tons sépia, c'est très joli, dans les méandres de l'histoire, l'histoire d'un tableau d'Otto Müller de 1919 à l'Allemagne nazie. C'est très très beau. Alors là, je remontre mes livres. On a souvent eu, quand on était jeune au collège, le premier roman dont on nous parlait en anglais, c'était Sa Majesté des Mouches. Et là, donc, chez Dargo, c'est un roman graphique adapté par une dame qui s'appelle Aimée de Jong, du roman éponyme de William Golding, qui était paru en 1954, un classique de la littérature contemporaine vendu à des millions d'exemplaires. Golding, il faut le rappeler, obtient le prix Nobel de littérature en 1983, pour son œuvre, pas pour ce livre-là particulièrement. De quoi s'agit-il ? Un avion s'écrase sur une île déserte. Les seuls survivants sont un groupe d'écoliers. À lire pour en savoir plus. Maintenant, le premier coup de cœur de Véro, que je partage, Une femme dans la course de Marie Duvoisin et Gwenola Morizure, aux éditions Le Lombard. Saviez-vous que courir le marathon n'a été autorisé aux femmes aux États-Unis qu'en 1972 et aux Jeux Olympiques en 1984. Marie Duvoisin nous livre une fiction inspirée d'histoires de femmes qui se sont battues pour courir, comme Bobby Gibb, Catherine Switzer ou encore Chantal Langlacé. C'est très très beau au niveau du graphisme et c'est édifiant sur la connerie des hommes, comme d'habitude. Le second coup de cœur de Véro, je ne l'ai pas, mais j'ai vu quelques pages. Marcel Cerdan, Le cœur élégant, de Bertrand Gallic et Gendreau, chez Coup de tête Delcourt. Cet album nous plonge dans la vie méconnue du boxeur le plus célèbre de l'Hexagone, tragiquement disparu le 28 octobre 1949 dans le crash de son avion au-dessus des Açores alors qu'il se rendait à New York pour affronter Jacques LaMotta début décembre au Madison Square Garden. Le combat, bien sûr, n'eut jamais lieu. Et pour terminer, je vous conseille la lecture d'Au nom du fils de Pauline et Jean-Blaise Dian au scénario et Sébastien Corbet au dessin. Alors c'est des auteurs locaux. Dans l'enfer de la prison de San Pedro. C'est aux éditions Rue de Sèvres. San Pedro, un enfer unique en son genre, une prison autogérée, administrée par les détenus eux-mêmes, à La Paz, en Bolivie. Je peux vous jurer que ça craint. Voilà, le temps me manque pour vous en dire plus. Ce sera pour une autre fois. Bonne lecture.
Merci à toi Alain pour cette revue dessinée. David, est-ce que tu entends ça ?
Donc, oui,
le gong d'une nouvelle CPV, et cette fois, on s'intéresse à la Madeleine de Proust.
Ah oui, la fameuse. L'expérience aurait-elle la même si on l'a imaginé, la Proust dans son chef-d'œuvre, à la recherche du temps perdu, croqué non pas dans une Madeleine, mais dans une pauvre biscotte, ou plutôt dans un bout de pain grillé. Il s'en est fallu d'une miette. Dans la première version de la recherche rédigée en 1907, c'est le souvenir du goût du pain grillé qui émeut l'écrivain avant que celui-ci soit remplacé par une pauvre biscotte dans une deuxième version. La petite Madeleine apparaîtra finalement du côté de chez Swam.
Merci David et on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de cette émission consacrée à l'écriture et à la fiction en compagnie de nos deux invités, Nicolas Sorel, auteur multiplume et Grégory Bonnet, maître de conférences en informatique à l'université de Caen, mais c'est pas tellement ça le sujet puisque tu es surtout passionné d'écriture.
Alors, si je vous dis fiction, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Vous avez 2 heures. Non, je rigole.
Il en faudrait beaucoup plus, David, pour un tel sujet. Si on évoque fiction, pour moi, on évoque la chose la plus importante de la Terre. La fiction, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pour moi le meilleur moyen de parler et de toucher la vérité. En fait, la vérité des sentiments, la vérité est quelque chose qui se partage, en fait. La réalité, les faits, c'est une chose. La réalité intérieure, c'en est une autre. Et pour moi, la réalité intérieure, elle existe et elle se partage dans la fiction, dans les histoires, dans les émotions. On évoquait rapidement Forrest Gump tout à l'heure. C'est quelque chose qui, voilà, on est des millions à avoir vibré. Et c'est vraiment de la fiction, même s'ils se sont amusés dans Forrest Gump à s'amuser justement avec des inserts dans le réel. En fait, c'est complètement un film complètement fou où il se passe. Et en même temps, ce qui parle de la réalité de nos faiblesses et de la façon dont on se sent faible. Et voilà, je trouve ça extraordinaire. Voilà, pour moi, la fiction, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Et toi, Grégory?
C'est une manière de sublimer la réalité, en tout cas, ou de la rendre accessible en fait à tous, et aussi à travers une bonne histoire, parce que ça permet d'avoir à la fois un propos sur le réel, et à la fois de nous amuser avec une histoire sympathique, ou pas, mais qui en devient sympathique par cette même raison-là, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait, c'est la manière dont les deux choses se mêlent, en permanence, en tout cas dans le travail d'écriture.
Et une autre manière de parler de fiction, vous faites tous les deux partie, me semble-t-il, de la MRP. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet, nous expliquer ce que c'est?
Oui, tout à fait. Alors, la MRP, donc, c'est la Maison du Roman Populaire d'Amavada, donc l'association dont on parlait tout à l'heure, qui, comme Nicolas l'avait dit, c'est une association qui est pluridisciplinaire, avec du théâtre, de la musique, de l'écriture, mais elle a aussi hérité d'un fonds de romans populaires qui datant du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. On a un peu plus de 15 000 ouvrages, à peu près. On n'en connaît pas encore exactement le compte. Et donc, depuis quelques années, avec Nicolas et puis d'autres bénévoles de l'association, on essaye de faire vivre ce fonds. Alors, d'une part, en essayant de l'archiver, de le recenser, de savoir exactement ce qu'on a à l'intérieur. Par exemple, on a quelques pépites comme... un Notre-Dame de Paris qui a été édité du vivant de Victor Hugo, et puis du roman plus récent, du roman de genre, etc. Et de le faire vivre à travers plusieurs événements, ce qu'on appelle des cocktails poussières, où on va venir présenter un livre, une série de livres, une thématique autour de livres. Et puis les gens qui vont venir vont pouvoir boire un petit coup avec nous et puis en profiter pour écouter une lecture mise en musique par les comédiens, les musiciens professionnels de la compagnie.
Le prochain aura lieu vendredi prochain, le 8 novembre, sur le thème des agents secrets, les fameux barbouzes. À 18h, rendez-vous à 18h30.
C'est ça, 18h30.
Aux écuries le 8 novembre pour en savoir plus.
Voilà.
Et il y a aussi le prix poussière.
Et il y a aussi le prix Poussière, qui est donc le premier prix littéraire pour livres oubliés, puisqu'il s'agit de récompenser un livre dont l'auteur... les règles du prix Poussière, c'est que l'auteur doit être mort et le livre ne doit plus être édité. Donc c'est pas pour faire plaisir à un auteur et c'est pas pour faire vendre les bouquins d'un éditeur. C'est redécouvrir des livres comme ça, parce que dans les mailles de la littérature, il y a beaucoup de gens qui sont passés à travers, et parmi ceux-là, il y avait... vraiment pas mal de bons bouquins. Donc c'est à travers notre collection, les livres qu'on lit et qu'on fait lire, essayer de redécouvrir comme ça quelques pépites ou quelques sommets de romans de genre auxquels aujourd'hui on imagine plus forcément. Enfin voilà, des trucs voilà, qui peuvent être aussi dans l'outrance et dans les... Voilà, à la fois dans le subtil, à la fois dans l'outrance. Enfin, c'est spectaculaire, c'est beau, quoi.
Bon alors, Nico, nous t'avions déjà rencontré au festival Bloody Flory. J'aimerais que tu nous redonnes un petit peu ton parcours d'auteur, et puis aussi, puisque je suis un grand fan du Stade Malherbe de Caen, j'aimerais que tu nous parles de ton aventure pour le magazine Alécan.
Oh là là, c'est pareil, il va falloir 1h30 pour raconter tout ça. Donc Alécan, on en a parlé tout à l'heure. Quand j'étais étudiant, je faisais voilà, pour, je faisais un travail pour gagner ma vie à côté. Et du coup, un petit boulot d'étudiant. Et moi, j'avais trouvé le moyen, grâce à des gens qui avaient bien voulu m'accompagner et me coopter, etc., le moyen de rentrer dans à Alécan, le magazine du Stade Malherbe de Caen, pour conjuguer mes deux passions, qui étaient l'écriture et le foot. Et donc voilà, j'y suis resté 4 ans, je crois, avec des voyages à travers la France. J'ai vu tout un tas de stades et de matchs et tout ça. Et voilà, tout en écrivant des comptes rendus, des interviews, des trucs. C'était super, ça m'a permis d'interviewer Zinedine Zidane, quoi. J'ai fait ça dans ma vie. Et les trucs comme ça. Voilà. Après, pour le reste, c'est difficile parce que je commence à être pas tout à fait tout jeune. Donc j'en ai fait des trucs et j'en ai écrit des machins. J'ai écrit beaucoup de théâtre pendant très longtemps. Aussi en lien avec Amavada, dont on parle beaucoup ce soir. Mais c'est vrai que c'est au centre un petit peu de plein de choses qui se passent pour nous. Pour vos invités, Greg, Grégory et moi. Et du coup, voilà, c'était très intéressant le théâtre parce que c'est des pièces, c'est une œuvre qu'on écrit et on a un lien avec les gens qui la représentent et avec les gens qui la reçoivent directement. Alors qu'un bouquin, on propose un texte et on ne sait pas du tout comment les gens le lisent.
Justement, il me semble qu'il y a un de tes textes qui joue en ce moment, ou en tout cas bientôt.
Oui, Petit Navire, qui est une pièce que j'ai écrite et qui a été créée par Amavada et qui tourne toujours. Et il y a des représentations publiques demain, vendredi à 20h et samedi 2 à 16h de mémoire. Enfin, il faut consulter le site d'Amavada pour avoir les infos précises, des horaires, des tarifs, etc., etc. En tout cas, c'est vendredi soir et samedi après-midi.
Ok. Et toi, Grégory, t'es passionné de jeux de rôle. Dans quelle mesure l'écriture, enfin, comment tu t'inspires pour les écrire et dans quelle mesure ton expérience en atelier d'écriture, par exemple, ou d'autres formes d'écriture t'inspire à la création?
C'est dans le rapport, en fait, au collectif. Alors, de la même manière que pour l'écriture, hein, le jeu de rôle, pour ceux qui ne connaissent pas, il existe mille et une pratiques, en fait, différentes. Donc, moi, je peux parler un peu de la mienne, hein, mais peut-être que si vous interviewez un autre rôliste, il vous parlera de choses très, très différentes. Mais en tout cas, en fait, l'idée, c'est qu'on a un ensemble de joueurs qui sont autour d'une table. Alors, il y a des règles de jeu, bien sûr, qui sont, comme tous les jeux, hein, qui sont bien, bien définies. Mais un des objectifs, en fait, c'est de raconter collectivement une histoire où chaque joueur va jouer le rôle d'un personnage. Et puis, il y a un joueur particulier qui va essayer d'orchestrer un peu ça, comme un peu un animateur d'un club d'écriture. il y a des liens. Et même si chaque joueur va défendre son propre rôle, ses propres objectifs, etc., il y a quand même ce besoin d'écoute, en fait. D'écoute collective, d'être capable de construire sur ce que dit l'autre, d'accepter en fait les désirs de l'autre en termes d'écriture et de narration. Et donc on va y retrouver en fait un petit peu les mêmes choses. Et donc le chef d'orchestre, donc celui qu'on nomme le maître du jeu, en fait a quand même un travail en amont, qui est un travail de scénarisation et qu'on peut retrouver en fait pareil dans les travaux qu'on fait dans un atelier d'écriture. Donc on va construire un scénario en sachant pertinemment, bien évidemment, que les joueurs, au moment de sa réalisation, ne feront jamais ce qui est attendu, et fort heureusement, parce que sinon ce serait presque ennuyeux.
Ok, bon, on aurait autres questions à vous poser, mais malheureusement l'heure tourne. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus témoigner à notre micro ce soir. Et pour enchaîner, David, mettons cette fois la fiction en musique.
Oui, du coup, avec une nouvelle CPV.
Nous. Non.
Ah, alors, je ne dois pas avoir le...
C'est pas grave, je vais prendre la main sur toi. Alors, Anakin Skywalker, alias Dark Vador, aurait-il fait trembler les étoiles sans la main de son chef d'orchestre John Williams? Pulp Fiction serait-elle la Pulp Fiction sans l'iconique Missir Lou? Jack et Rose auraient-ils pu s'aimer autrement qu'au son de la voix de Céline? Et Amélie aurait-elle connu si fabuleux destin sans une valse signée Yann Tiersen? Bref, les exemples, il y en a mille. Alors, on vous propose d'écouter plutôt Where Is My Mind de The Pixies et on espère que vous aurez la ref.
Stop.
Retour en direct dans Bonjour Turbine, le temps d'une émission consacrée à l'écriture et à la fiction, et le temps aussi de laisser la parole à Tao, qui a pris la plume pour nous faire découvrir le monde de la dystopie.
Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
J'ai vu au collège pour la toute première fois le premier film de la trilogie Hunger Games. On y suit Katniss Everdeen, qui, forcée de participer à des jeux menant à la mort pour satisfaire la classe bourgeoise du Capitole, fait ressurgir dans le cœur des gens une envie de révolte. Cette histoire, à la fois terne et inspirante, a marqué pour moi, comme pour mes amis, le début d'un empressement de voir la suite au cinéma. Cette même passion s'est faite ressentir pour d'autres films et livres, tels que Divergente, où des personnes sont divisées en différents districts en fonction de leurs capacités mentales et physiques, ou encore Labyrinthe, où des cobayes sont enfermés dans un emmêlement de murs gigantesques avec la menace d'un monstre tueur. Le point commun de ces histoires est qu'elles mettent en scène des mondes dystopiques, où on décèle très rapidement le même schéma scénaristique. Une société comme la nôtre vire graduellement vers le chaos, révolte, guerre mondiale, inégalité sociale monstrueuse. Un système prend alors le pouvoir, s'érigeant en grand sauveur du monde. Et c'est en voulant créer un avenir utopique que ce système, devenu totalitaire, dépossède peu à peu le peuple de ses libertés. C'est à ce moment-là que la dystopie apparaît. Mais dans cette atmosphère sinistre, les protagonistes se mettent peu à peu à affronter l'autorité malgré les dangers, répandant ainsi une lueur d'optimisme. C'est par exemple en se tournant vers des modes de vie alternatifs et autonomes que l'on découvre avec eux que l'oppression peut être contournée. C'est le cas de Guy Montag dans Fahrenheit 451, qui fait la découverte des livres pourtant interdits grâce à un groupe indépendant qui le mène par la connaissance vers son émancipation. Sortir de ce système passe aussi, bien souvent, par une révolution, comme celle menée par Katniss Everdeen, représentée comme l'allégorie de la liberté et de la révolte du peuple. Les dystopies semblent aussi fonctionner de la même façon que nos cauchemars, car la nuit est le moment où notre subconscient imagine les pires scénarios possibles pour nous préparer psychologiquement aux épreuves à venir. Le cauchemar fonctionne donc comme un entraînement. Et la journaliste Salomé Sakier l'a dit dans son livre « Sois jeune et tais-toi », la jeunesse est grande consommatrice de dystopie. Car pour un jeune grandissant dans un monde plus que jamais tendu entre guerre, crise climatique et dérive politique, le futur semble bien morne. Or, ces histoires, qui auraient dû nous faire relativiser, nous présentent au contraire des scénarios catastrophes pour se préparer au pire et nous donnent les clés psychologiques quant à nos possibilités d'action future. Car ces histoires nous font premièrement réfléchir aux potentielles dérives de nos sociétés actuelles, comme le fait le très célèbre livre 1984 de George Orwell. Or, ce livre écrit en 1949 ressemble désormais davantage à notre réalité qu'à de la fiction. Dans un monde où les droits humains sont revus à la baisse et où la technologie paraît hors de contrôle, il est alors naturel aujourd'hui de s'imaginer un futur pour le moins dystopique. Quoi qu'il en soit, la dystopie nous apprend au moins une chose, qu'elle soit réelle ou fictive, dans un labyrinthe ou au milieu des ruines à Gaza, dans l'oppression de l'Afghanistan ou au massacre au Soudan, que la vie soit détruite, la dignité humaine brisée ou l'avenir incertain, une seule chose demeure, l'espoir.
Merci Tao pour ta chronique. Et on enchaîne tout de suite, puisque jamais 203. David, une dernière CPV pour la route ?
Ah oui, alors une CP de ouf, puisqu'il s'agit de CPV, mais avec des questions, une CPV quiz. Alors, à 3, 2, 1, vous êtes prêts à vos micros ? Qu'est-ce que la leucocéphobie ?
Oh là.
La peur de la leucocé.
Non. La peur du sang.
C'est un truc de qui devrait qui concerne tous les écrivains.
La peur de la page blanche.
Exactement. Un point pour Nicolas Sorel. Retrouvons cette fois un personnage populaire de BD de Tintin. Dans Tintin, le château de Moulinsart est inspiré d'un château français. Lequel ? Loir-et-Cher, c'est dans le Loir-et-Cher.
C'est pas Cheverny. Je l'ai si, c'est ça.
Et bravo.
J'étais pas
deuxième
sûr de
point pour Nicolas Sorel. Quel est le prénom du capitaine Haddock ? Il n'est cité qu'une fois dans Tintin et les Picaros.
Alors ça...
Non, ça... Hein. Et je vais vous le dire parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Ah oui.
Archibald.
Archibald, exact.
Eh bien voilà, c'était la dernière CPV.
Et bonjour Turbine, 71e s'apprête à se terminer. Merci à nos invités Nicolas Sorel et Grégory Bonnet d'être venus nous partager leur passion pour l'écriture. Merci également à nos chroniqueurs Alain, Jonathan Tao pour cette nouvelle émission ponctuée de vos papiers inspirés. Marion Reine de la Technique, merci à toi encore. Et quant à moi, je suis ravie d'avoir assuré pour la première fois cette saison l'animation de cette émission. Et il ne me reste plus qu'à te remercier mon cher David d'avoir évolué ce soir à mes côtés.
Oui, ben merci à tous aussi. Et c'est avec un grand plaisir. Nous étions ravis de partager ce moment avec vous, chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast sur Station B, les audioblogs d'Arte, Spotify et Deezer. Quant à la prochaine, la 72e, ça se passe le 14 novembre, même lieu, même heure. Cette fois, nous intéresserons au festival alimentaire. D'ici là, bonne soirée et à bientôt.
À bientôt.